Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et bien chers amis, nous avançons dans ce traité sur la vertu de tempérance. Et nous en sommes maintenant à la question 150 de la Seconda Seconde. C'est un traité important parce qu'il touche beaucoup de choses très pratiques. Il nous aide au niveau moral pour nous aider à comprendre la gravité justement des péchés contre la tempérance, qui sont des péchés extrêmement fréquents dans le monde moderne. La question 150 parle de l'ivresse. Savoir si l'ivresse est un péché mortel, et dans quelles conditions. L'ivresse est très souvent un péché mortel à cause de ses conséquences. C'est-à-dire que si quelqu'un sait qu'à chaque fois qu'il s'enivre, qu'il perd volontairement la maîtrise de soi par le vin, et que lorsqu'une fois qu'il est ivre, il fait des grosses bêtises, il est responsable de ces bêtises. Si par exemple quelqu'un sait, je donne un exemple tout simple, si quelqu'un sait qu'à chaque fois qu'il s'enivre, il va, par exemple, blasphémer à haute voix pendant très longtemps, eh bien il est responsable des blasphèmes qu'il fait avant de s'enivrer. Ce que je veux dire, c'est que en acceptant de s'enivrer, il accepte par avance les conséquences des choses qu'il va faire sous l'effet de l'alcool. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il s'enivre, il sait qu'il va blasphémer. Donc, en acceptant de s'enivrer, il accepte les blasphèmes. Donc, il y a faute grave. Donc, voilà ce que dit saint Thomas. Article 1 de la question 150. L'ivresse est-elle un péché? Voilà ce que dit saint Thomas. Le mot ivresse s'entend de deux façons. Il signifie d'abord l'état d'un homme pris de vin. Dans cette acception, il n'exprime pas précisément le péché de l'ivresse, mais la défaillance qui en est la conséquence et la punition. Mais il désigne aussi en second lieu l'acte par lequel on est tombé dans cette défaillance. Et si cet acte en est la cause, par la grande force du vin pris sans y songer, un n'est point coupable, surtout si on n'a pas péché par négligence à s'en apercevoir. Par exemple, si quelqu'un s'enivre par surprise, il ne sait pas, n'a pas réalisé que la bière qu'il prend, par exemple, est une bière très forte, aussi forte que du vin, il croit qu'il va boire une bière qui a 4 ou 5% d'alcool, alors qu'en fait, il boit une bière qui en a 10 ou 12, qui a 10 ou 12 degrés d'alcool, et il s'enivre par un... il perd le contrôle de sa raison par surprise. Là, il n'y a pas faute grave, dans le sens qu'il ne l'a pas fait volontairement, au moins la première fois. Mais la deuxième fois, il ne pourra plus invoquer cette raison. La deuxième fois, il sera responsable parce qu'il sait ce qu'il fait. Lorsque Noé a planté la vigne et qu'il y a eu le début du vin dans l'histoire du monde, dans le livre de la Genèse, on parle de Noé qui, surpris par la force du vin qu'il ne connaissait pas, s'enivre et dans son ivresse se déshabille complètement.
Eh bien, il sut que dans un cas comme ça, il n'y avait pas faute de la part de Noé parce qu'il ignorait totalement la force du vin. Mais, dit saint Thomas, si un tel état résulte de l'amour et de l'usage déréglé du vin, l'ivresse constitue en tant que volontaire un péché compris sous la gourmandise. À ce sujet-là, avant de continuer, pardon, d'expliquer ce que dit saint Thomas, je pense qu'il faut insister sur l'éducation à donner aux enfants par les parents. Je me rappelle quand j'étais dans les pays de langue anglaise, les catastrophes provoquées par une loi qu'ils avaient dans tous ces pays qui interdisait l'usage de l'alcool, même en famille, avant l'âge de 18 ans. Résultat des courses, eh bien, les jeunes commençaient à boire comme des trous à 18 ans, ils n'avaient jamais appris à boire avant et c'était des catastrophes. Eh bien, il faut dans les familles apprendre aux enfants à boire avec raison. On commence par leur donner quand ils ont 5-6 ans le dimanche 3 gouttes de vin pour le dessert, et puis petit à petit on augmente un petit peu la quantité pour qu'ils apprennent à la maison à contrôler la façon de boire et ce qu'ils vont boire. Très souvent, c'est un manque d'éducation. Mais c'est des péchés extrêmement fréquents. J'étais vraiment profondément surpris de voir, surtout dans les campagnes, à quel degré les jeunes, surtout, sont sous l'emprise très facilement de la boisson. Si j'habite dans un tout petit village, un petit hameau, à Padiès, près de la sainte partie de Padiès, près d'Albi, dans le Tarn, et quand il y a la fête au village, il y a 500 ou 600 personnes, et 2 heures après le début de la fête, il y a déjà des jeunes qui sont ivres, mais ivres à vomir. Et on sent que c'est pour eux un jeu. Boire le plus possible, ils sont sous ma fenêtre à 2 heures après le début de la soirée des 3 jours de fête du village au mois de juillet, en train de hurler des blasphèmes sous ma fenêtre. C'est vraiment triste. Et là, je pense que ça vient du manque d'éducation, une carence éducative qui est imputée aux parents qui n'ont pas fait leur travail. Donc, l'ivresse est-elle un péché mortel? Alors voilà ce que dit saint Thomas, il va faire les distinctions qui s'imposent. L'ivresse est produite de trois manières, dit-il quelquefois. On ne s'aperçoit pas que l'on fait un usage immodéré d'une boisson enivrante. Il est possible alors que l'ivresse s'en suive sans péché, j'ai déjà expliqué. D'autres fois, on sait bien que l'on boit immodérément, mais on ne pense pas que tel vin soit de force à enivrer. L'ivresse, dans ce cas-là, est un péché véniel. Enfin, il peut se faire que, remarquant en même temps l'excès que l'on fait, la force du vin, on aime mieux s'enivrer que de cesser de boire. Ce cas, qui est celui de l'ivresse proprement dite, constitue un péché mortel, car on se prive volontairement et sciemment de l'usage de la raison dont on a besoin pour la vertu, et on se livre au danger de péché. Dans l'ivresse, on commet par ignorance beaucoup de crimes que la sobriété fait éviter. Donc, quand je me prive, c'est ce que dit saint Thomas, se priver volontairement et sciemment de l'usage de la raison, que ce soit par l'ivresse ou par la drogue, d'ailleurs c'est la même règle, eh bien c'est en soi déjà un péché mortel. Parce qu'on ouvre la porte à toute une série de déboires, de fautes morales qui peuvent être très graves. Des gens sous l'empire de l'ivresse peuvent tuer. Bon, il est évident que dans ce cas-là, si vous savez très bien que lorsque vous êtes ivre, vous rentrez dans les colères noires et que vous pouvez faire des grosses, grosses bêtises, devenir extrêmement violent et des conséquences gravissimes, eh bien, le simple fait que vous commenciez à boire un peu trop, c'est déjà une faute grave. Un homme ne s'enivre pas assidûment sans qu'il y ait chez lui connaissance et volonté. Donc, la règle qu'on peut donner, que la règle générale, c'est quand on s'enivre par surprise, sans le faire exprès, il n'y a pas de faute grave. Même parfois, pas faute du tout. Mais dès qu'on se prive volontairement, sciemment de l'usage de la raison, il y a faute grave. Donc, boire sciemment, dit saint Thomas, jusqu'à l'ivresse, voilà le péché mortel. Ce péché n'est pas, dit saint Thomas, le plus grand des péchés. Le bien divin l'emportant sur le bien humain, les péchés commis directement contre Dieu sont évidemment plus graves que l'ivresse opposée seulement au bien de la raison humaine. L'ivresse est aussi, à mon avis, beaucoup plus dangereuse chez les hommes, je veux dire chez les femmes que chez les hommes. Non pas qu'elle soit plus grave chez les femmes que chez les hommes, mais une jeune fille, par exemple, qui s'enivre, mais évidemment, s'expose à des catastrophes. épouvantable. Et je connais des jeunes filles qui se sont retrouvées enceintes comme ça, sans même le savoir, tout simplement, sans même comprendre ce qui leur était arrivé, tout simplement parce qu'elles ont bu dans une mauvaise compagnie. Donc là, je crois, encore une fois, revenons à l'éducation nécessaire. Et je ne peux que conseiller aux jeunes filles qui sont avec des amis dont elles ne sont pas très sûres, se rendent bien compte qu'il y a parmi ces groupes, dans ce groupe d'amis qu'elles côtoient, des gens qui sont pas forcément de grande vertu, et qu'elles apprennent, dès qu'elles sont dans des milieux dans lesquels elles sont un peu en insécurité, qu'elles apprennent à ne pas boire du tout dans ce milieu, c'est beaucoup trop dangereux. Une question qu'on m'a souvent posée, est-il moral de boire beaucoup, juste avant de se coucher par exemple, pour couper une grippe ou couper un maux de tête ou quelque chose comme ça. Ça me semble pas très intelligent, mais dans un cas comme ça, si on boit et qu'on se couche immédiatement après, je pense pas qu'il y ait faute grave. Cependant, c'est tâcher de trouver une autre médication, ce qui me semblerait plus intelligent. On passe à la question 151 de la chasteté. Évidemment, là, on est en plein dans le traité de la tempérance. Saint Thomas pose que d'abord la question de savoir si la chasteté est une vertu. La chasteté est-elle une vertu? Voilà ce que répond Saint Thomas. La vertu humaine consistant à régler les choses conformément à la raison, nous sommes fondés à dire que la chasteté est une vertu. Pourquoi? Parce que la chasteté est une vertu qui va aider justement la raison à châtier la concupiscence. Concupiscence de la chair étant une conséquence justement de la blessure qui atteint le concupiscible. Et le concupiscible est ce qui, dans notre âme, une puissance de notre âme qui nous fait désirer les choses. Et bien comme ce concupiscible est blessé par la concupiscence, et donc il faut faire extrêmement attention à tout ce qui touche justement à ces blessures de la concupiscence. Donc il y en a trois: concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et concupiscence de l'orgueil. Donc concupiscence de la chair, et bien évidemment, sont tous les péchés justement contre la chasteté. Concupiscence des yeux, c'est les péchés contre la vertu de pauvreté. Et concupiscence de l'orgueil, c'est tous les péchés justement qui tournent autour de ce vice capital. Donc la chasteté résidant dans l'âme, elle a le corps pour objet. Il lui appartient ainsi de régler, dit saint Thomas, au gré de la raison et de la volonté, l'usage de nos membres. Donc le contrôle de nos actions dans le domaine de la chasteté, justement, est une vertu qui nous aide justement à opérer dans le bien. La chasteté, dit saint Thomas, est une vertu spéciale qui a pour objet particulier de régler les plaisirs charnels. Et comme les plaisirs charnels sont certainement parmi les plaisirs les plus vigoureux, si vous voulez, il faut que cette vertu de chasteté ait une force toute particulière. L'esprit qui s'abandonne ainsi contre l'ordre de Dieu, à l'amour des biens terrestres, commet une fornication spirituelle. On utilise parfois, et saint Thomas l'utilise souvent, le mot fornication, ou le mot fornication, oui, dans un sens mystique, dans un sens spirituel. Donc au figuré, cette vertu peut être prise pour une vertu générale qui modère tous les plaisirs illicites. L'esprit qui s'unit à Dieu et qui s'abstient des actions défendues est chaste spirituellement. Donc parfois le mot chasteté est utilisé hors de son contexte normal, qui est justement la correction de la concupiscence de la chair. Saint Thomas pose la question, article 3 de la question 151, la chasteté est-elle une vertu distincte de l'abstinence? Il répond positivement. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes sortes de plaisirs à réprimer, dit-il. Différentes sortes de plaisirs à réprimer. Et donc, il y a différentes vertus. L'abstinence règle les plaisirs de la table, la chasteté, les plaisirs de la chair. Il est évident donc, dès lors, que l'abstinence et la chasteté sont deux vertus différentes, bien qu'en français, souvent, les deux termes sont synonymes. On peut parler, dans certains cas, les gens parleront d'abstinence à propos aussi des plaisirs de la chair. Ce n'est pas forcément abstinence des plaisirs de la table, ça peut être les deux à la fois. Rien, dit saint Augustin, n'énerve plus le courage des hommes que la volupté charnelle. Alors là, se place une vertu dont je parle souvent parce qu'elle me semble très importante. On ne sait pas très bien comment la traduire en français. La pudicité, on peut dire aussi la pudeur, je pense que c'est la même chose. La pudicité, dit saint Thomas d'Aquin, a pour objet principal de réprimer ce qui porte le signe ou l'apparence des plaisirs charnels. Donc, les regards, les libertés, les baisers impudiques, elle est une circonstance spéciale de la chasteté qui réprime les plus grossiers de ses plaisirs. On les prend quelquefois l'une pour l'autre. Donc la pudicité, certainement on parlera plus loin. La pudicité, c'est une honte, si vous voulez, de ce qu'il y a de particulièrement honteux, je dirais, dans les plaisirs charnels, surtout dans les plaisirs charnels illégitimes, illicites. Il est évident que, on verra ça avec saint Thomas plus tard, que dans les plaisirs charnels licites, par exemple l'acte conjugal entre deux époux, il n'y a pas de péché. Cependant, il existe quand même une honte qui doit expliquer le fait que ce genre d'action doit se faire strictement en privé dans la chambre à coucher des parents. Et que donc, il y a une certaine pudicité qui doit empêcher des parents à faire usage, même légitimement, de cet acte conjugal entre les deux parents, les deux époux, devant d'autres yeux. On verra tout ça avec saint Thomas. Saint Thomas reviendra plus tard sur ces choses-là. Question 152 de la virginité. Et voilà une vertu importante. Donc saint Thomas va expliquer que la virginité est supérieure au mariage. C'est l'enseignement catholique, l'enseignement de l'Église catholique, l'enseignement du catéchisme. La virginité, l'état de virginité est supérieur à l'état de vie commune dans le mariage. Donc saint Augustin définit la virginité comme étant une continence consacrée en quelque sorte. La virginité, dit-il, est une continence par laquelle l'intégrité de la chair est vouée, consacrée et conservée au Créateur de l'âme et de la chair. C'est une continence consacrée à l'auteur de notre vie. Donc, l'intégrité du corps, saint Thomas va expliquer justement le rapport entre la virginité et l'intégrité du corps. Il y a trois choses, dit-il, dans les plaisirs de la chair: la perte de l'intégrité corporelle, la sensation charnelle et le dessein de se procurer une délectation. N'oublions pas que Dieu, dans ses commandements, ne demande pas simplement d'éviter l'impureté, mais d'éviter aussi le désir de l'impureté. Tu ne désireras pas la femme de ton prochain. L'intégrité du corps, donc, ne se rapporte qu'indirectement aux actes moraux. On peut la perdre sans que l'âme y ait aucune part. La sensation charnelle n'est point coupable si on n'y donne pas son consentement. Une personne qui est violée, par exemple, et qui se défend toutes ses forces contre cette agression épouvantable, n'est coupable d'aucun péché. Par conséquent, dit saint Thomas, la virginité consiste formellement et complètement dans la résolution de s'abstenir toujours des satisfactions de la chair. Et donc, on verra après, avec saint Thomas, justement, que si un plaisir charnel arrive sans qu'on l'ait voulu, il arrive tout seul en quelque sorte, il n'y a pas de violation de la virginité, puisque la raison n'intervient pas. Pourquoi ? Parce qu'il explique bien que rien de ce qui est involontaire ne saurait détruire cette chasteté, cette virginité. La virginité est le dessein de garder une pureté perpétuelle dans une chair corruptible. Donc elle consiste essentiellement dans l'âme et matériellement dans la chair. L'intégrité du corps peut se perdre sans préjudice pour elle. Rien de ce qui est volontaire ne saurait la détruire. Il est évident que, par exemple, dans les premiers siècles de l'Église, il y a eu des tas de cas, malheureusement, de ce genre, où des vierges consacrées ont été exposées à des outrages abominables dans des lieux de débauche. Et il est évident que dans un cas comme ça, même si elles ont perdu physiquement leur virginité, n'ont pas perdu moralement l'état de virginité. Puisque, encore une fois, l'involontaire ne saurait détruire cette virginité. La virginité est-elle illicite? Article 2 de la question 152. Donc la virginité est, non seulement n'est pas illicite, mais est quelque chose de tout à fait louable. Notre Seigneur Jésus-Christ, par les pères de l'Église, va beaucoup, beaucoup en parler. Il y a pour l'homme trois sortes de biens, les biens extérieurs, les biens du corps et les biens de l'âme. Donc il y a une hiérarchie entre ces choses. Le plus haut, ce sont les biens de l'âme, puis en dessous, les biens du corps, ensuite les biens externes, les biens extérieurs. Donc saint Paul lui-même en parle, sous le souffle du Saint-Esprit, pour les vierges, je n'ai pas reçu de préceptes du Seigneur, je leur donne un conseil. C'est pour ça que la chasteté, est une, dans ce cas-là, est un conseil évangélique, n'est pas une obligation. Il n'y a pas d'obligation pour un jeune homme, une jeune femme, pour aller au ciel, de pratiquer la chasteté totale. C'est un conseil évangélique que Dieu demande à ceux qui ont une vocation religieuse, dans des cas particuliers. Les biens extérieurs sont donc inférieurs à ceux du corps, et ceux-ci le sont aux biens de l'âme, parmi lesquels la vie contemplative l'emporte sur la vie active. Si vous voulez. De même que la virginité l'emporte sur le mariage, de même la vie contemplative l'emporte sur la vie active. Rappelez-vous la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ à Marthe, la sœur de Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe, donc, qui se plaint qu'elle est obligée de faire tout le service, alors que sa sœur, Sainte Marie-Madeleine, est aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ en buvant chacune de ses paroles. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui répond, « Marie a choisi la meilleure part et cette part ne lui sera pas enlevée. » Donc, la droite raison qui veut que l'on use des biens extérieurs dans la proportion utile au corps et des biens du corps dans celle de l'âme veut aussi que l'on fasse servir les biens de la vie active à la vie contemplative. Donc, la vie active est au service de la vie contemplative, de même que le corps est au service de l'âme. Donc, le corps est à la vie active, ce que l'âme est à la vie contemplative. Donc, nous suivons les mêmes lois de la raison lorsque, pour nous appliquer davantage à la divine contemplation, nous nous abstenons des jouissances de la chair, tout aussi bien que quand nous nous privons de certains aliments bons en eux-mêmes pour conserver notre santé, pour nous livrer plus facilement à l'étude. Il y a deux domaines qui sont parallèles. C'est le plaisir, si vous voulez, qui est donné par les aliments, par la nourriture, et le plaisir qui est donné par l'activité sexuelle licite, morale, entre deux époux. Eh bien, de même que le plaisir qui est donné en association à l'usage de la nourriture, en mangeant un bon repas, ça donne une certaine joie, un certain plaisir physique, eh bien, ce plaisir physique est tout à fait légitime dans la mesure où tout est soumis à la droite raison. Donc, on a le droit de jouir d'un bon repas, ce n'est pas un péché du tout. Le péché va être introduit lorsqu'on coupe la nourriture de l'usage de la raison. Si je vis pour manger, il y a faute. Si je mange pour vivre, il n'y a pas faute. Bon, c'est la même chose dans l'usage des joies, si vous voulez, très fortes que le bon Dieu a voulu donner, dans l'usage des corps, dans l'acte conjugal entre deux époux. Eh bien, il a voulu justement un plaisir, et il n'est pas du tout péché de jouir de ce plaisir du moment que la fin pour laquelle ce plaisir a été donné est respectée. C'est-à-dire que deux époux ont parfaitement le droit d'avoir entre eux l'acte conjugal, de jouir de cet acte conjugal, du moment que la fin est protégée. On verra tout ça plus tard. Donc, conclusion de saint Thomas d'Aquin, il suit de ces principes que la virginité religieuse est louable plutôt que blâmable. Bon, la virginité est quelque chose de plus grand. Pourquoi ? Parce que c'est saint Paul qui l'explique. La Vierge, elle pense aux choses de Dieu, en sanctifiant son corps et son âme. La femme mariée, au contraire, est obligée, en toute légitimité, de songer aux choses du monde pour plaire à son mari. Et donc, évidemment, en plaisant à son mari, cherchant à plaire à son mari, ce qui est parfaitement légitime pour une épouse, non seulement c'est légitime, mais c'est son devoir d'État, un de ses devoirs d'État, eh bien, elle n'aura plus aussi autant de temps de passer à la contemplation. On ne peut pas demander à une mère de famille, à une épouse, qui a un devoir d'État très, très fortement chargé dans la famille, avec surtout si elle a beaucoup d'enfants, Vous ne pouvez pas demander à cette mère de famille de passer autant de temps à la prière qu'une religieuse contemplative. Hein. Donc il n'y a pas le même devoir d'État. Donc la virginité est louable et c'est en même temps une vertu hein, qui va dépendre justement de la vertu de tempérance. C'est pour ça que saint Thomas place cette question de la virginité dans le traité de la tempérance. Alors, la question importante est de savoir si la virginité est supérieure à l'état de mariage. Vous savez que ça a été nié par pas mal de gens, entre autres par un hérétique qui s'appelait Jovinien, au 3e ou 4e siècle, qui a été surtout combattu par saint Jérôme. Jovinien prétendait que la virginité n'est pas préférable au mariage, que le mariage est donc plus parfait que la virginité. Saint Jérôme a, avec raison, fortement combattu cette erreur. C'est une erreur réfutée d'avance, d'ailleurs non seulement par l'exemple du Christ, qui a choisi une mère vierge, qui a conservé lui-même la virginité, mais par la doctrine de saint Paul, donc qui conseille cette vertu comme étant un état supérieur au mariage. La raison elle-même, dit saint Thomas, nous enseigne que si l'on doit préférer le bien divin au bien commun, au bien humain, pardon, le bien de l'âme à celui du corps, la vie contemplative à la vie active, la virginité conservée comme une disposition à la vie contemplative est sans contredit plus excellente que le mariage, qui a pour but la multiplication corporelle du genre humain et les soins de la vie active. Donc la vie contemplative est largement supérieure à la vie active. Ce qui ne veut pas dire, attention, que tout le monde est appelé à une vie contemplative. Attention. Bon. De la même façon, les vertus passives sont supérieures aux vertus actives. Les vertus passives, par exemple l'humilité, est supérieure à une vertu active, comme par exemple la vertu de force. On verra tout ça plus tard. De ce que la virginité est supérieure au mariage, il ne suit pas, attention, qu'une personne mariée ne puisse point avoir plus de mérite qu'une vierge. Saint Augustin donc, explique, il veut qu'une vierge se dise à elle-même, bien que la chasteté du célibat soit au-dessus du mariage, je ne suis pas pour cela meilleur qu'Abraham. La virginité que je garde, ce patriarche lui gardait mieux que moi, si elle eût été nécessaire de son temps. Saint Augustin ajoute, la Vierge a occupé des choses de Dieu, c'est elle-ci, tandis que la femme mariée à laquelle elle oserait se préférer est prête à boire le calice de la passion du Seigneur, quelques faiblesses secrètes de son esprit ne l'empêchent point elle-même d'être mûre pour le martyre. Dieu juge l'intérieur des cœurs, pas nous, on ne peut pas. Saint Thomas se pose ainsi, en conséquence, la question de savoir si la virginité est la plus grande des vertus. La réponse est non, la plus grande des vertus, c'est la vertu de charité. Donc cette vertu de virginité qui surpasse la chasteté des veuves et la chasteté conjugale, c'est ce qu'il y a de plus parfait dans ce genre même de la chasteté, cela est incontestable. Elle n'est pas néanmoins, absolument parlant, la plus excellente des vertus. Alors, après avoir donné les principes généraux de ce qu'est la virginité, saint Thomas, question 153, va parler de la luxure, hein, des péchés capitaux. Donc, péché capital, je vous rappelle, un péché capital n'est pas forcément un péché mortel. Un péché capital, c'est un péché qui est la tête. Caput, c'est la tête en latin, qui est la tête de beaucoup d'autres péchés, qui est la source de beaucoup d'autres péchés. Alors, on va voir si la luxure est toujours un péché capital. Oui. Est-ce que la luxure est toujours un péché mortel? Alors, il va falloir distinguer la luxure. Dans le domaine de la luxure, il y a toujours matière grave. Matière grave, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chose est sérieuse. Rappelez-vous que pour qu'un péché soit un péché mortel, il faut trois conditions. La matière grave, la pleine connaissance et le plein consentement. L'action que je veux faire est grave. Je sais que cette action que je veux faire est interdite par la loi du bon Dieu sous peine de péché mortel. Ça, c'est la connaissance. Ça fait rien, je le fais quand même. Consentement. S'il y a matière grave, pleine connaissance et plein consentement, il y a faute grave. Donc, on verra que dans la luxure, il y a toujours matière grave. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a toujours péché mortel. Il peut y avoir des tentations, par exemple, très faiblement, de façon très, très courte, une mauvaise pensée qui est consentie pendant un quart de seconde, et puis on la rejette tout de suite. Il n'y a pas faute grave, en général, il n'y a que faute vénielle, on va voir tout ça. Donc, Saint Thomas, cette question 53, donc, va se poser, va parler de ce vice de la luxure. C'est une chose qu'il faut bien connaître, malheureusement, à cause du monde complètement pourri dans lequel on vit. Dans ce domaine, Saint Thomas d'Aquin va toucher des choses très pratiques, presque de façon un peu directe. C'est pour ça que dans les périodes de foi, même encore actuellement, il faut qu'on le fasse, dans les périodes de foi, si vous prenez par exemple une traduction de la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin en français, sur certaines questions relatives à des détails très précis sur la luxure, ces questions-là n'étaient pas traduites en français. Le livre était en français d'un bout à l'autre, mais ces questions-là restaient en latin pour justement qu'elles ne puissent pas tomber entre des mains, des yeux plutôt, des yeux qui n'étaient pas préparés à les lire, quoi. Alors voyons un petit peu ce que dit saint Thomas sur ce vice de la luxure. Article 1, la luxure a-t-elle seulement pour matière les plaisirs de la chair, hein? Donc voilà ce que dit saint Thomas. Les désirs et les plaisirs de la chair, voilà la matière spéciale de la luxure, vice par lequel on se livre aux dissolutions de la volupté, cause principale de l'énervement des âmes. Donc la concupiscence de la chair est certainement la concupiscence la plus violente. Article 2. Tout plaisir de la chair est-il illicite? La réponse est évidemment non. La conservation du genre humain à laquelle se rapportent les plaisirs de la chair est une fin légitime, tout aussi légitime que la conservation de l'individu. C'est pour cela que le bon Dieu a institué un sacrement spécial pour légitimer ce plaisir de la chair, cette union des corps, sacrement du mariage. De même, dit saint Thomas, que l'usage des aliments pris dans l'ordre, selon la raison et selon la mesure du salut du corps n'est pas défendu, celui des plaisirs de la chair est pareillement permis dans l'ordre de la maintenir et qui convienne au but de la génération humaine. Donc, on mange pour vivre, de la même façon, on peut utiliser les plaisirs de la chair entre époux avec en vue justement la procréation et l'éducation des enfants. Puisque le but premier du mariage chrétien est la procréation et l'éducation des enfants. Mais on verra qu'il y a aussi deux fins secondaires, à savoir l'amour mutuel entre les deux époux. L'amour mutuel entre les deux époux est également une façon de lutter contre le désordre de la concupiscence. On va voir tout ça. Donc, la luxure est un péché, dit saint Thomas. Plus une chose est nécessaire, plus on pêche en s'écartant des règles de la raison dans ce qui la concerne. L'usage des plaisirs charnels étant très nécessaire à la conservation du genre humain, il est de la plus haute importance d'y observer l'ordre et le mode que prescrit la raison. La conséquence à tirer, c'est que la luxure, qui sort des limites raisonnables, est un péché. C'est-à-dire, dès que la raison n'intervient plus, que soigneusement on enlève l'usage de la raison dans la recherche de ses plaisirs, on tombe dans le péché. La raison, en quelque sorte, est un garde-fou dans l'usage des plaisirs de la chair et des plaisirs aussi qui regardent la nourriture. La raison doit intervenir. Elle doit intervenir, d'ailleurs, pas simplement dans ses plaisirs, même dans d'autres plaisirs plus diffus, comme par exemple le plaisir de dormir. Bon, on a besoin de dormir pour vivre, donc on doit dormir pour vivre. Quelqu'un qui ne prendrait pas le minimum de sommeil dont il a besoin, qui serait par exemple trop fatigué pour faire son devoir d'État parce que volontairement il ne dort pas assez, ne peut pas être excusé de péché. Hein, c'est absolument évident. Eh bien, il faut que ces plaisirs, plaisir de la chair, plaisir de la nourriture, plaisir du sommeil, soient réglés par la raison. Hein. Donc, faire un mauvais usage du corps humain, c'est offenser Dieu qui en est le premier maître. Saint Paul le disait bien, glorifiez, portez Dieu dans votre corps. Dieu nous défend donc expressément de souiller par la volupté un corps qu'il a choisi pour son temple. Alors encore une fois, avec l'usage de la raison. Bon, il y a des plaisirs qui sont légitimes dans certains cas et qui ne sont pas dans d'autres cas. Il y a des plaisirs qui sont légitimes dans un certain état de vie qui ne sont pas légitimes dans un autre état de vie. Donc il faut faire attention, encore une fois, on a si vous voulez, aujourd'hui, on le voit très bien, il y a les deux tendances. Au niveau des bêtises qui sont dites sur ces sujets, il y a deux écueils, à mon avis, à éviter. Ceux qui, par libéralisme, vont pratiquement accepter tous les péchés de luxure en disant que ce n'est pas des péchés du moment qu'on s'aime. Et puis ceux qui, au contraire, vont tomber dans l'excès inverse, une espèce de rigorisme, de rigorisme qui va... une espèce de catharisme, il n'y a pas d'autre mot à utiliser, c'est un peu l'hérésie des cathares. Par exemple, je connais certaines personnes qui arrivent à dire qu'on a le droit d'avoir une relation charnelle entre deux époux que lorsqu'on veut un enfant, directement. Et donc, si vous savez que vous ne pouvez pas avoir d'enfant, vous n'avez pas le droit d'avoir de relation charnelle entre vous. Et que donc, pour ces gens-là, ce serait un péché grave d'avoir une relation charnelle à un moment où vous savez très bien que votre épouse ne peut pas tomber enceinte, ce qui est complètement faux. Il ne faut pas tout mélanger, encore une fois. Il faut pas. Ce prétexte que la luxure s'est répandue partout dans le monde entier, tomber dans l'excès inverse, tomber dans une espèce de rigorisme qui n'est pas du tout catholique. Une espèce, j'ai remarqué, dans certains milieux, c'est des vacantistes surtout, il y a un esprit rigoriste qui est très dangereux. Que je l'appelle aussi, d'ailleurs, souvent l'esprit janséniste, c'est un peu ça. Des purs qui s'épurent parmi des purs de plus en plus purs. Derrière tout ça, derrière ce rigorisme, derrière ce jansénisme, il y a un orgueil absolument invraisemblable. Alors, saint Thomas se pose la question, article 3 de la question 153, la luxure est-elle un vice capital? La réponse est oui. Mais que parmi les sept péchés capitaux, il y a le péché capital de la luxure. Donc, la luxure dont les plaisirs pardon, de la chair sont la fin est un vice capital. Ces sortes de plaisirs, tant par leur vivacité que par leur rapport avec notre nature, ont une telle puissance dans notre appétit sensitif que pour se les procurer, on commet beaucoup de péchés. Donc la luxure ouvre la porte à beaucoup d'autres péchés. Article 5, saint Thomas d'Aquin, une question très intéressante. Un article très intéressant sur les filles de la luxure, les conséquences de la luxure. Voilà ce qu'il nomme. La cécité spirituelle, c'est-à-dire l'aveuglement spirituel, la précipitation, l'inconsidération, l'inconstance, l'égoïsme, la haine de Dieu, l'amour de la vie présente, l'horreur de la vie future. On pourrait méditer sur cet article. Toutes ces filles sont malheureusement présentes. L'aveuglement spirituel, la précipitation, le fait qu'on domine plus, si vous voulez, son corps, on laisse le corps s'embride comme un cavalier, si vous voulez, qui abandonne l'étalon à toute la force de sa jeunesse et qui cherche plus à contrôler l'étalon. L'étalon va tout casser. Et bien, c'est la même chose. Et il faut vraiment méditer sur ces filles de la luxure. Notamment sur la cécité spirituelle, l'aveuglement spirituel. On n'est plus capable de prier quand on tombe dans la luxure. Aussi l'amour de la vie présente et l'horreur de la vie future. On n'est plus capable de penser à son salut quand on tombe dans les péchés de luxure. Donc ces filles de la luxure sont des suites de la violence avec laquelle elles captivent l'appétit inférieur et atteint par là la raison et la volonté. Donc la luxure est tellement forte que ce péché va... couper les passions de la volonté et la volonté de l'intelligence et l'intelligence de Dieu. Donc, il explique en disant que la raison a quatre manières d'agir. L'intelligence, le conseil, le jugement, le commandement. Bon. La concupiscence a bouleversé notre cœur et la luxure va donc empêcher notre esprit de percevoir la vérité. N'oublions pas que l'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. Donc, quand on tombe dans les péchés de luxure, on a du mal à utiliser normalement notre intelligence. Et notre intelligence va se couper de sa finalité. On ne va plus utiliser notre intelligence pour le vrai, on va utiliser notre intelligence pour offenser le bon Dieu. Donc la luxure, dit saint Thomas, empêche notre esprit de percevoir la vérité, de là la cécité spirituelle ou aveuglement de l'esprit. Et on peut le voir dans le monde moderne, on a vraiment l'impression aujourd'hui que dans le monde moderne est tombé dans un aveuglement total, surtout dans ce domaine. La luxure se pose ensuite au bon conseil. n'ayant ni mesure ni prudence. On appelle cela la précipitation. Donc pour obtenir les joies interdites de la luxure, eh bien le luxurieux va se précipiter dans les choses sans pensée, sans prudence, sans moyen de contrôler ce qu'il fait. Il va évidemment se précipiter la tête dans le mur. La luxure détruit aussi la rectitude du jugement pratique. C'est ce qu'on appelle l'inconsidération. Quelqu'un qui est sous la luxure, dans la luxure, qui est dans la tentation de luxure, n'est plus capable de penser droit. Je le dis très souvent quand je prépare les gens au mariage. C'est quelque chose de très important pour des fiancés. Fiancés sont évidemment, par la force des choses, très amoureux l'un de l'autre. Et je dis toujours aux gens, une fois que vous êtes amoureux, vous aurez beaucoup de mal pendant les fiançailles. Tant que vous êtes amoureux comme ça, ce qui est normal, c'est normal que vous soyez amoureux en tant que fiancé, il est très difficile, voire impossible, d'avoir un bon jugement quand on est amoureux. C'est pour ça qu'il y a des décisions à prendre avant de tomber amoureux. C'est ça le drame, c'est que la plupart des fiancés vont prendre des décisions très importantes pour leur futur une fois qu'ils sont follement amoureux de la jeune fille ou du jeune homme. Et du coup, comme ils sont follement amoureux, ils vont tomber dans la précipitation, ils vont avoir une certain aveuglement spirituel qui va les empêcher de prendre les bonnes décisions. Je dis toujours aux jeunes, c'est très facile à dire, très difficile à mettre en pratique, je dis, mais avant de tomber amoureux de cette jeune fille, utilisez votre intelligence pour savoir, être sûr que c'est vraiment une jeune fille qui est faite pour vous. Est-ce que c'est une bonne chrétienne? Est-ce qu'elle va être capable de vous aider à monter vers le bon Dieu, ou est-ce qu'au contraire, elle va vous pousser vers l'enfer? Ce n'est pas une fois que vous serez fortement amoureuse de cette jeune fille que vous allez pouvoir vous poser ces questions, parce que vous ne serez plus capable de répondre avec objectivité à cette question une fois que vous êtes amoureux. Donc la luxure détruit la rectitude du jugement pratique, c'est ce que saint Thomas appelle l'inconsidération. La luxure va agir aussi contre le commandement, en ne permettant pas d'exécuter une résolution, c'est l'inconstance, c'est plus ce qu'on veut, on change d'idée tout le temps. L'inconstance est une caractéristique de notre monde moderne, ça aussi c'est une chose qui m'a beaucoup frappé dans le milieu traditionnaliste, c'est l'inconstance de beaucoup de gens. Ils changent d'idée beaucoup trop facilement, ils prennent des décisions et puis quelques jours plus tard, ils reviennent complètement sur la décision qu'ils ont prise parce que les situations ayant changé, ils changent complètement de décision. Quant à la volonté, la luxure, il produit pareillement bien des désordres, bien des actes désordonnés. Donc l'amour déréglé de soi, ou l'égoïsme, à cause des plaisirs qu'on recherche avec excès, la haine de Dieu qui défend un tel plaisir, l'amour de la vie présente dans laquelle seul on jouit des voluptés impures et par une suite nécessaire, l'horreur de la vie future qui n'offre que des biens spirituels. Oui. Donc, on peut dire à contrario, si vous voulez, que la contemplation des grandes fins dernières, c'est-à-dire la mort, le jugement, le ciel, l'enfer, le purgatoire, les limbes, sont certainement un des meilleurs moyens que le bon Dieu met à notre disposition pour lutter contre les tentations de luxure. Mais une fois qu'on est tombé dans la luxure, on est en plein dedans, l'amour de la vie présente va prendre le pas sur l'horreur de la vie, sur l'amour de la vie future, on sera incapable de penser à ce qui nous attend après la mort. Donc il faut réfléchir à ces choses-là avant justement d'être tombé dans les péchés de luxure. Question 154, donc c'est une question assez longue, donc il y a 12 articles sur cette question. Dans cette question, des espèces diverses de la luxure. Donc il se pose la question de savoir si il faut diviser la luxure en plusieurs espèces. Donc il va différencier les choses, parfois des termes assez techniques, j'expliquerai quand c'est nécessaire, je n'aurai pas les détails qui ne sont pas forcément nécessaires, des choses qui sont à savoir en théologie morale pour le prêtre, mais qui ne sont pas utiles pour les fidèles. Donc, il distingue entre la fornication, l'adultère, l'inceste, le stupre, qui est une espèce de viol, le rapt, le vice contre nature. Donc, les gens comprennent très facilement dès qu'on donne un exemple. L'acte sexuel illicite, c'est-à-dire l'acte sexuel commis avec quelqu'un qui n'est pas votre époux légitime, n'est pas le même, la même action, mais présente une gravité différente selon les circonstances. Ainsi, l'acte sexuel commis entre deux personnes qui ne sont pas mariées, ce qu'on appelle un péché de fornication. Bon. Et si c'est commis avec une personne qui est mariée, elle n'est pas son mari, elle n'est pas son épouse, cette personne est mariée et elle commettait l'acte sexuel avec cette personne, c'est un péché d'adultère simple. Si les deux personnes sont mariées avec quelqu'un d'autre et commettre le péché de chair entre elles, c'est un adultère double, d'accord? Voilà ce qu'explique saint Thomas. Donc, la fornication simple, c'est l'union de deux personnes libres, et contraire, évidemment, surtout à l'éducation des enfants, parce qu'il y a un enfant qui naît de cette union, eh bien, il va naître sans parents, puisqu'il n'y a pas de mariage. L'adultère détruit, trahit la foi du mariage. L'inceste blesse le respect dû à une femme parente ou alliée. Le stupre viole les droits des parents d'une jeune personne. C'est l'amour ancien qui est pratiquement plus utilisé en français, qui désigne un viol d'une personne, d'une jeune fille qui est encore sous le pouvoir de son père. Le rapt ajoute la violence au viol. Le vice contre nature, opposé à la fin même des plaisirs de la chair, empêche la génération. Dans tous les autres genres de luxure se ramènent à l'une de ces six espèces. Donc, je vais, dans tous ces domaines-là, je vais pratiquer, suivre le conseil de Saint Paul. Saint Paul dit que ce genre de péché ne soit pas même nommé parmi vous. Donc, il faut une certaine discrétion, délicatesse, même dans un cours de ce genre, qui est peut-être entendu par beaucoup de monde sur Internet. Donc, je fais un petit peu attention à ce que je dis pour ne pas donner trop de détails quand ce n'est pas nécessaire. Des choses qu'on peut faire plus facilement, par exemple quand on prêche une retraite, on peut donner plus de détails parce qu'on a devant nous, on n'a pas d'enfants devant nous, on a devant nous des gens qui se préparent à une confession générale. La situation est un peu différente. Article 2, la fornication, donc union de personnes libres, sans mariage, donc, est-elle un péché mortel? La réponse est oui, catégorique. Saint Paul, après avoir parlé de la fornication, dit « Ceux qui commettent ces fautes n'entreront pas dans le royaume des cieux. » Donc la fornication est une faute grave. Sans parler du désordre de la concupiscence, la fornication, s'accomplissant dans des conditions nuisibles à la vie de l'enfant qui va naître, blesse l'amour du prochain. En effet, un enfant a besoin, Thomas explique, c'est magnifique, un enfant a besoin non seulement de sa mère pour le nourrir, mais encore de son père qui doit l'instruire, le protéger, lui assurer en un mot les biens de l'âme et du corps. Loin qu'il soit conforme aux lois de la nature, que l'homme s'unisse à une femme passagèrement, il faut au contraire une union qui dure longtemps et même toute la vie. D'ailleurs, parmi les alliances vagues et indéterminées, les hommes ne connaîtraient point leurs propres enfants, à l'éducation desquels ils sont obligés de pourvoir. C'est pourquoi le mariage est de droit naturel, bien qu'ils doivent, comme tout ce qui intéresse le bien général, tomber sous la détermination de la loi humaine. Concluons donc seulement ici en disant que l'union des sexes en dehors du mariage est contraire à la bonne éducation de l'enfant. Elle est donc un péché mortel. Vainement, on alléguerait que l'on a suffisamment pourvu à cette éducation. La loi qui défend la fornication est fondée sur ce qui arrive communément, non sur un cas particulier. Oui. Et donc là, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire, malheureusement, à cause de la décadence des mœurs, surtout provoquée par le sixième art, par la multiplication des écrans, donc la possibilité d'avoir accès à des mauvais films, à la pornographie surtout, sur tous les écrans, par Internet, par la télévision, par les ordinateurs, etc. Et ça a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un cadeau des Américains, les GI américains qui ont amené ce péché épouvantable, cette multiplication, si vous voulez, des péchés de fornication, surtout par un changement de façon de vivre des gens, et ça a été apporté justement par eux après la Deuxième Guerre mondiale. On le voit très bien, moi j'ai été pendant longtemps missionnaire en Asie du Sud-Est. Tous les mauvais quartiers, par exemple, à Bangkok, par exemple, ou en Thaïlande, ou les pays de ce genre, quand on voit un petit peu l'histoire, eh bien, ils ont été fondés par les GI américains pendant la guerre du Vietnam, ou avant, ou après. Vous voyez, donc, il faut faire attention à ça. Donc, ceux qui sont coupables de ces fautes de fornication, dit saint Thomas, ne posséderont pas le royaume, ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Alors, La fornication est-elle le péché le plus grave? Se demande saint Thomas à l'article 3. La réponse est non. Ce n'est pas le péché le plus grave. Encore une fois, les péchés les plus graves, c'est les péchés directement contre Dieu. L'orgueil en tant que tel est plus grave. La fornication a une sorte, on peut aller jusqu'à dire que la fornication a une sorte d'excuse dans la violence même de la concupiscence. Plus la passion qui entraîne la volonté est grande, moins le péché est grave. Où trouver, dit saint Augustin, de plus rude combat que ceux de la chasteté, où continuelle est la lutte, rare est la violence. Donc la fornication, dit saint Thomas, n'est pas plus criminelle que le blasphème qui se commet directement contre Dieu, ou l'homicide par lequel on attaque la vie d'un homme déjà né. N'oubliez pas que dans les 10 commandements, les péchés contre les commandements de la deuxième table, commandement 4 à 10, sont moins graves que les péchés contre les commandements de la première table, commandement 1 à 3. Les attouchements, article 4. Les attouchements et les baisers sont-ils des péchés mortels? Il est évident que ici saint Thomas parle des attouchements et des baisers entre personnes qui ne sont pas mariées. Donc tout ce qu'il dit sur ce sujet vaut pour toutes les personnes qui ne sont pas mariées, par exemple des fiancés. Donc, les attouchements, les baisers et les baisers sont-ils péchés mortels entre fiancés? La réponse est oui, parce qu'ils ne sont pas mariés. Et c'est la phrase de notre Seigneur. Quiconque, a dit notre Seigneur, regarde une femme avec convoitise, a déjà commis dans son cœur le péché de fornication. Bon, alors, il faut distinguer, bien sûr. Saint Thomas explique que les attouchements et les embrassements ne sont pas par eux-mêmes des péchés mortels. Ils peuvent avoir lieu sans passion, soit à cause de la coutume du pays, soit par nécessité ou pour un autre motif raisonnable. Cependant, ils deviennent une faute mortelle à raison de la cause qui les produit, lorsqu'une passion honteuse les inspire. Donc, il faut suivre aussi les coutumes des pays. C'est évident que s'embrasser sur la joue pour se dire bonjour, même entre amis, ce n'est pas une faute grave. C'est évident. Cependant, les baisers, ce qu'on appelle les baisers voluptueux, sont des péchés mortels entre personnes qui ne sont pas mariées. C'est une question qu'on pose très souvent, je m'excuse d'en parler, mais là il faut quand même répondre à certaines questions. Questions que les jeunes me posent très souvent au confessionnal ou en dehors du confessionnal en disant: Monsieur l'abbé, est-ce qu'un baiser sur la bouche avec ma fiancée est un péché mortel? Je fais ça pour manifester mon amour pour elle. La réponse est oui, c'est un péché mortel parce qu'il est absolument impossible. Dans l'étreinte qui est nécessaire entre deux fiancés qui s'embrassent sur la bouche, je ne peux avoir des tentations terribles contre la pureté. Et si quelqu'un, un jeune homme, me dit: Monsieur l'abbé, je suis capable d'embrasser ma fiancée de cette façon sans avoir de fortes tentations contre la pureté, je lui conseillerais très fortement d'aller voir un médecin, quelque chose qui ne va pas avec lui. Alors qu'on ne vienne pas me raconter des histoires, il est évident que ce genre de baiser entre personnes qui ne sont pas mariées sont des péchés mortels. Parce que ça ouvre la porte à des tas de dérèglements. C'est absolument évident, c'est du bon sens élémentaire. Malheureusement, même dans la tradition, j'ai connu des prêtres qui disaient aux fiancés que ce n'était pas un péché mortel. Vous vous rendez compte un peu des portes qui s'ouvraient là? Les catastrophes qui sont arrivées à cause de ces mauvais conseils donnés par certains prêtres imprégnés de libéralisme. Alors, les sensations nocturnes, par exemple, pendant les rêves impurs ou sensations involontaires, non provoquées volontairement, tout seul, ne sont pas des péchés. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, pendant le sommeil, la volonté est endormie. Les sensations impures, dit saint Thomas, que l'on éprouve pendant le sommeil où le jugement de la raison n'est pas libre, ne sont pas coupables en elles-mêmes. Donc il n'y a pas de faute. Souvent, les jeunes garçons sont assez surpris par ces choses-là. Ils se demandent s'ils ont péché. Non, il n'y a pas de péché. Si ce n'est pas voulu, si ça n'a pas été provoqué, par exemple, par des mauvaises pensées avant de s'endormir, ou des mauvais regards avant de s'endormir, ou un mauvais film avant de s'endormir. D'accord? Alors, je passe sur certains autres détails. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de traiter ces choses-là dans un cours de ce genre. Le bon sens élémentaire nous permet de répondre à ces questions. N'hésitez pas à poser ces questions confessionnelles à votre confesseur pour ceux qui ont des problèmes de ce genre, qui peuvent avoir des questions tout à fait légitimes. Il ne faut pas hésiter à les poser confessionnelles. Il ne faut pas hésiter non plus pour des fiancés qui se préparent au mariage, dans les communications qu'ils ont avec le prêtre qui les prépare au mariage, de poser ces questions. dans ce domaine, je conseille beaucoup le livre du Père Barbara, La catéchèse catholique du mariage, hein, qui contient des conseils très pratiques sur tous ces domaines-là. Hein. Alors, quelques détails sur lesquels j'insiste quand même. J'insiste pas sur certaines choses, parce que je ne pense pas que ce soit la place ni le lieu. Saint Thomas dit, hein, à l'article 8 de cette même question 154, que l'adultère par lequel l'un des époux viole la foi conjugale ajoute à la luxure une laideur particulière, qui en fait une espèce distincte. Pourquoi ? Parce que dans l'adultère, il y a deux péchés, en fait. Il y a un péché contre le sixième commandement, le neuvième, mais aussi un péché contre la vertu de justice, hein, parce qu'on offense une femme, un homme qui est marié à quelqu'un d'autre. Donc on détruit le droit d'une personne sur le corps de son conjoint, droit légitime par le sacrement de mariage, en touchant une personne qui n'est pas votre époux légitime. C'est donc un péché grave aussi contre la vertu de justice. J'insiste quand même un peu, je crois que c'est nécessaire, sur l'article 11 et l'article 12, les deux derniers articles de la question 154. Le vice contre nature est-il une espèce particulière de la luxure ? Le vice contre nature est-il le plus grave des péchés de luxure ? Bien que en soi, les péchés contre nature couvrent beaucoup de choses. C'est pas simplement l'homosexualité. Aussi tous les péchés qui vont contre la nature. Le péché solitaire est un vice contre nature. Cependant, l'Église a un dégoût tout particulier pour le péché d'homosexualité. Dans les catéchismes, si vous regardez au chapitre qui concerne les péchés qui crient vengeance contre le ciel, il y a le péché de sodomie. Hein, donc attention à ça. Voilà ce que dit saint Thomas, il y a un péché d'une espèce spéciale où se rencontre une laideur particulière, et c'est ce qui a lieu dans la violation de l'ordre naturel établi pour la génération. Il en résulte que le vice contre nature, qui, suivant les divers actes par lesquels il enfreint cet ordre, prend les noms des noms différents, est une espèce particulière de la luxure. Hein. Donc, c'est pour ça que le Bergoglio, qui a osé dire que qui suis-je pour juger un homosexuel, a complètement oublié son catéchisme et a ouvert une porte qui a été utilisée évidemment par des millions d'homosexuels dans le monde qui maintenant se disent, bah, puisque le Bergoglio lui-même ne juge pas, le pape ne juge pas, donc on peut le faire, quoi. Et là, il faut vraiment, vraiment, les gens qui ont des problèmes de ce genre, passer par la case confessionnelle, il n'y a que là qu'on peut régler les choses. Hein. Alors je précise que des tentations ne sont pas des péchés. Malheureusement, ça arrive d'avoir des jeunes hommes, moi j'ai eu plusieurs cas comme ça que j'ai connus dans mon apostolat, qui me disent, monsieur l'abbé, j'ai 18-20 ans, je suis un homme, et je ne suis absolument pas attiré par les femmes. Je ne suis attiré que par les hommes, gens du même sexe que moi. Et je leur réponds toujours, pauvre ami, vous avez une croix terrible, terrible, terrible à porter. Mais le bon Dieu va vous donner la grâce de porter votre croix. Hein? Ce n'est pas un péché d'avoir des tentations si vous luttez contre les tentations. Donc si vous luttez de toutes vos forces contre cette tentation, eh bien, vous allez vous sanctifier. Vous pouvez devenir un saint quand même. À condition que vous luttiez contre cette tentation. Donc ça vous demande non seulement d'utiliser bien sûr surtout le sacrement de pénitence, extrêmement fréquemment, pour lutter contre ça, mais en même temps d'éviter comme la peste les lieux où vous pouvez rencontrer des gens qui sont comme vous. Donc les bars homosexuels, ou les lieux dans lesquels vous pouvez rencontrer des gens qui ont le même problème que vous, il faut éviter ça comme la peste. Et si vous évitez ça comme la peste, vous pouvez vous sanctifier et devenir un grand saint. Et j'ai connu des gens qui avaient ce genre de tendance, qui sont devenus des très grands saints, hein, parce qu'ils ont eu des croix terribles à porter, parce que ce sont des gens qui ne peuvent pas se marier, évidemment, à cause de cette tendance qui empêche tout mariage, évidemment, parce qu'ils ne sont absolument pas attirés par une femme. Ils ne peuvent pas rentrer en vie religieuse, parce qu'il est impossible d'accepter dans la vie religieuse des gens qui ont ce genre de problème, et donc ils sont obligés de rester tout seuls. Mais le bon Dieu donne des grâces. Donne des grâces. Et surtout, ne pas les dire aux gens, c'est de la nature qui travaille, donc puisque c'est naturel, c'est qu'il n'y a pas de péché. Encore une fois, si la nature vous pousse à boire 2 litres de whisky par jour, ce n'est pas une excuse pour le faire. Non. Et donc saint Thomas dit bien, le vice contre nature est le plus grave des péchés de luxure. Il dépasse en gravité tous les autres péchés de luxure. Il attaque les principes naturels qui servent de règle à la raison pour diriger les actes humains. Rien n'est plus grave et plus triste que de nier les principes en agissant contre la nature. On doit, ici de Saint-Augustin, châtier sévèrement les vices contre nature. Ils font injure à la société, à la nature elle-même et à Dieu. Et malheureusement, ce genre de vice est maintenant répandu comme une traînée de poudre. Et si le démon pousse tellement sur ces vices et qu'il sent que ces vices contre nature sont totalement incompatibles avec l'idée même de Dieu dans une société. Voilà, bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Nous commençons la prochaine fois, si Dieu veut, la question 155 sur les parties potentielles de la vertu de tempérance. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.